Chapitre 8e. Dal, dal, ta, doum. Il se rendit comme hier auprès de Martin Huma. Celui-ci était maintenant levé, mais demeurait tendu sur une chaise de repos et fumait tranquillement sa cigarette. En entrant, le directeur lui dit « Ces dames sont là, et la confrontation va avoir lieu. Tenez-vous à y assister ?» Martin Huma répondit « Je ne le dois pas pour cette raison que nous avons dit que cette affaire resterait la plus secrète possible, qu'elle se passerait entre vous. Il ne faut pas par conséquent que la femme d'Éloi Vidal, qui m'a déjà vu auprès du premier cadavre, me revoie encore à côté de ce blessé et surtout dans l'état où je me trouve. Il faut redouter toute indiscrétion, si minime soit-elle. D'ailleurs, cette confrontation est bien inutile et aujourd'hui comme hier, je crois pouvoir vous répéter que ce n'est pas Éloi Vidal. » « Connaissez-vous cet homme pour être si affirmatif ?» demanda le directeur de l'hôpital. « Nullement. Mais je doute fort que dans cette momie enveloppée de bandelettes, où presque rien de la figure n'apparaît, Madame Vidal, sa fille et le vieil ami du garçon de recette qui les accompagne puissent reconnaître celui que l'on veut tant retrouver. Sur quoi vous basez-vous pour dire cela ?»«
Sur les faits matériels même. Comme on ne verra rien du blessé, on ne pourra rien reconnaître de lui. »
Mais moi, j'ai su que le père Vidal était un homme de forte corpulence, âgé, avec la moustache blanche, les cheveux très gris. Or, dans ce qui reste de figure dans cette masse sanguinolente qu'était la tête, aujourd'hui si convenablement pansée, nous avons vu, au moment où l'on posait les bandelettes, un bout de moustache très noir, des sourcils très noirs et des cheveux assez abondants et également de couleur foncée. Ce n'est pas la tête d'un vieillard. Ce n'est pas la noble tête d'un vieillard, comme on disait autrefois au boulevard du crime. De plus, cet homme est d'une corpulence plutôt faible, pas d'épaules, pas de ventre. En outre, dans la déchirure des lèvres, j'ai pu constater des dents bien rangées, jeunes, convenablement entretenues, ce qui n'était pas le cas du père Vidal. Brave homme, sans doute, mais à qui les soins minutieux de coquetterie faisaient quelque peu défaut. Le père Vidal, brave militaire, avait autrefois mangé tant et tant de biscuits très durs, qu'il n'avait gardé dans sa mâchoire glorieuse que fort peu de dents, longues, jaunes, très laides, juste ce qu'il fallait pour soutenir le court tuyau de pipe qu'il fumait presque en touchant son épaisse barbiche blanche. Ne fût-ce qu'à ces indices, nous pouvons affirmer que Madame Vidal ne pourra reconnaître son mari et la jeune fille son père dans celui qu'elles vont voir. Il est donc inutile que j'assiste à cette confrontation. Et, si vous le permettez, je vais continuer à me reposer tout en fumant une cigarette, en attendant que votre bienveillance veuille bien me faire connaître si je me suis trompé dans le résultat de cette confrontation. » On mit en présence du malade, tout en ayant pris les précautions d'usage, Madame Vidal et Dubois, le vieil ami du garçon de recette. Prosper et Philippe, sous la blouse d'infirmier, se trouvaient là avec le docteur et le commissaire de police d'usage. Comme lors de la première confrontation, Madame Vidal et sa fille pleuraient abondamment, étaient prises par leur douleur sincère. Ce fut à travers leurs larmes qu'elles jetèrent sur le blessé leur regard anxieux. Mais le malheureux était tellement entouré de bandelettes, tellement enveloppé que, vraiment, elles ne pouvaient voir grand-chose de lui. Cependant, nous l'avons dit, on avait réservé une ouverture pour le nez et pour la bouche, afin de faciliter la respiration et l'absorption de la nourriture. Par ce vide, créé dans l'entrecroisement des bandelettes, la moustache du blessé passait, était visible. Or, cette moustache, comme l'avait bien dit tout à l'heure Martin Huma, se montrait en effet très fine, et autant qu'on pouvait le voir, très soignée et de couleur noire, taillée à l'américaine. Ce n'était certes pas la moustache large, drue en brosse et grise du père Vidal, l'ancien militaire, le doyen des garçons de recette. Les deux femmes, à cette seule constatation d'ailleurs suffisante, eurent un cri « Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon père !» Mais Prosper insista, et pour avoir le témoignage plus complet, il dit à Madame Vidal « Ne nous arrêtons pas à cette simple constatation, car il est possible de modifier la teinte de la moustache, et ce n'est pas sur cet ornement facial seul qu'il faut établir la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'Éloi Vidal. Il faut un document plus sérieux, qu'on ne puisse mettre en doute, indiscutable. « Lequel, monsieur ?» demanda Madame Vidal. Prosper répondit « Si la face du blessé est masquée par des bandelettes, il garde, fort heureusement, une de ses mains
C'est la gauche qui n'est pas enveloppée. Elle n'est pas cachée sous un bandage, sous l'appareil du pansement. Elle est libre. Nous allons pouvoir l'examiner à loisir. Les mains ne pouvant se farder, ne pouvant être revêtues en somme d'un masque quelconque, être modifiées, elles gardent leur physionomie propre. On ne peut en changer l'aspect, en enlever les stigmates professionnels. Plus peut-être que le visage, que la face d'un homme, elles parviennent à le faire reconnaître et servent à assurer de façon indéniable son identité. « C'est exact, » dit-on. Prosper demanda. « Est-ce qu'Éloi Vidal portait un bijou quelconque à la main gauche ?» Avec un sanglot dans la voix, Madame Vidal répondit. « Il portait au quatrième doigt l'anneau de notre mariage. »« Bien, pas d'autre bague à un autre doigt ?»«
Non, monsieur. »«
Eh bien, l'homme qui est là ne porte pas d'anneau de mariage au quatrième doigt de la main gauche, mais en revanche, il porte au deuxième doigt une bague d'or ciselée très artistiquement. »
« Au deuxième doigt ? » s'écria-t-on.
« Parfaitement. » Élevant alors la main du blessé, Prosper la désigna à Madame Vidal en disant
« Veuillez vous en rendre compte, madame. Reconnaissez-vous ce bijou ? Avez-vous connaissance qu'il fût en possession de votre mari ?»
Madame Vidal jeta un coup d'œil sur cette main que lui présentait Prosper.
Elle s'écria aussitôt
« Non, non, ce bijou n'appartient pas à mon mari. » Il ne lui a jamais appartenu, d'ailleurs, ce n'est pas sa main. Ah non, ce n'est pas la main d'Éloi Vidal.
Cette main apparaissait en effet, sinon très belle de forme, du moins assez soignée. Les ongles étaient bien coupés. Autant qu'on pouvait en juger, ils devaient être lustrés et rendus brillants assez souvent. La main, assez fine, n'indiquait pas l'habitude des travaux manuels, ni qu'elle eût de la fatigue. Elle ne portait aucune trace de métier. Peu ridée ensuite, elle dénotait la jeunesse.
Non, non, ce n'est pas là du tout la main de mon pauvre Éloi, reprit Madame Vidal. Mon mari avait des rhumatismes, ses doigts étaient gros et noueux, déformés. Il avait les ongles courts et le temps manquait, certes, pour prendre soin de ses mains, messieurs, et il ne songeait pas à les soigner. C'était même très heureux pour mon Éloi quand elle ne le faisait pas souffrir.
Non, pauvre papa.
Non, non, ce n'est pas mon mari, non. Ce n'est pas le père de ma fille qui est là, et nous sommes encore plongés dans notre anxiété, dans notre douleur. »
Les constatations ne furent pas poussées plus loin. On fit signer un procès-verbal rapide à la veuve d'Éloi Vidal et à Dubois, le vieil ami du garçon de recette, qui lui aussi fit les mêmes déclarations, les mêmes constatations que Madame Vidal. Puis, la confrontation prit fin.
Revenant chez Martin Numa, le directeur de l'hôpital lui dit « Mon cher, vous aviez raison. Tout ce que vous m'avez dit s'est trouvé réalisé de point en point, comme si vous-même l'aviez réglé, en aviez préparé l'ordonnance. »
Mais quand le directeur de l'hôpital lui dit qu'on avait remarqué au deuxième doigt de la main gauche du blessé une bague en or, Martin Numa, non sans émotion, demanda « Vous êtes sûr que c'est au deuxième doigt que se trouve la bague ?»«
Parfaitement. Le port d'une bague à ce doigt est assez rare. Il faut une sorte de snobisme pour y consentir. »
« Oui, en effet. » dit Martin Numa. « C'est assez rare. Vous avez vu vous-même cette bague à ce doigt de la main ?»«
Pendant qu'un des infirmiers montrait la main, j'ai pu moi-même me rendre compte, voir le doigt qui portait la bague, je ne puis me tromper. »«
Merci. C'est très curieux, en effet. C'est très intéressant. Ce qui nous prouve encore plus que le blessé que nous avons ne peut être Éloi Vidal, brave homme d'ailleurs, mais cela soit dit sans l'offenser et lui porter préjudice, peu homme du monde, peu snob. » Jamais l'idée ne lui serait venue d'une recherche de coquetterie pareille. Rien de plus juste, en vérité. Martin Numa se garde à bien ajouter quoi que ce soit à cet entretien. Il fit dévier la conversation, n'insista plus sur ce point, parla de choses absolument différentes et peu après, le directeur de l'hôpital se retirait. Resté seul, Martin Numa se dit « J'ai vu, quand on m'avait condamné à mort, qu'on allait m'exécuter. » J'ai vu briller au deuxième doigt de la main gauche de l'homme qui semblait le chef une bague en or. J'ai pu voir briller aussi aux mains de ceux qui mettaient cette sentence terrible à exécution des bagues au deuxième doigt de la main gauche. Dès lors, rien n'était plus simple, plus clair pour lui que de voir, dans cette façon de porter un bijou, un signe de ralliement, de reconnaissance. C'est l'insigne de la société, se dit-il. J'ai donc affaire à un groupe assez nombreux, puisque tous ces gens qui travaillent dans un même but peuvent ne pas se reconnaître entre eux et ont besoin de ce signe pour savoir qu'ils sont de la même société secrète. C'est donc une association de criminels, une mafia, que j'ai désormais à combattre. » Il ajouta, « Je m'explique maintenant comment il se fait qu'elle soit si bien organisée, si puissante, et qu'elle ait de tels moyens extraordinaires d'action, qu'elle puisse se trouver outillée puissamment de la sorte. » Combattre lui seul, ce groupement, cette association de malfaiteurs devait être difficile, extrêmement pénible. Mais Martin Dumas ne s'attarda pas à examiner la lourdeur de cette tâche et la quasi-impossibilité de venir à bout de la mission qu'il avait entreprise. Il souhaita seulement de se trouver bientôt sur pied, de recouvrer rapidement ses forces afin de pouvoir se remettre en campagne, se dévouer et, là encore une fois, pour le bien de la société, risquer sa vie. Comme s'il ne lui suffisait pas d'avoir déjà été tué deux fois, d'être un double mort. La science, quoi qu'on en dise, ne fait pas toujours faillite et parfois elle opère des miracles. C'est ainsi qu'elle parvint, en quelque sorte, à galvaniser ce corps qui, selon un terme très pittoresque et d'une exactitude scrupuleuse employé par un des médecins, n'était plus qu'un cadavre s'acharnant à respirer. Un matin, alors qu'on allait changer les bandelettes et qu'on essayait au moyen d'une sonde de nourrir ce malheureux, le quasi-moribond s'agita, très faiblement à la vérité, mais fit enfin quelques mouvements qui indiquaient que la vie commençait à revenir chez lui. Il essaya même de parler et fit entendre des sons rauques, inarticulés, incompréhensibles. Ce n'était pas maintenant le cri de douleur qui sort d'un corps sur lequel le chirurgien s'applique, la plainte échappée même sous l'influence du chloroforme au cours d'une opération douloureuse, c'était vraiment des mots qui sortaient de cette bouche brisée, informe. Des paroles passaient sous ses bandelettes, maintenant défaites. Ce menton ouvert et muet, et ses lèvres, comme hachées, écrasées sur les mâchoires, remuaient et voulaient parler. L'émotion que causa cette constatation fut grande autour du lit du blessé, et l'on considéra ce retour à la vie comme une sorte de victoire de la science, un acte de domination sur la mort. Alors, on fit au malade de nouvelles injonctions sous-cutanées, et puisque la vie revenait, l'action de ces réactifs devait être plus puissante, plus forte, et pousser sinon à la guérison immédiate, du moins faciliter le retour long mais définitif de la vie. Ce cadavre allait enfin revivre. C'était une sorte de résurrection qui s'opérait. Selon les instructions données en prévision de cette éventualité, on alla immédiatement prévenir Martin Dumas qui accourut aussitôt. Personne dans l'Hôtel-Dieu ne connaissait la qualité de Martin Dumas, ne savait qui il était, sauf, bien entendu, le directeur et le chef de service. D'ailleurs, les chirurgiens et leurs aides, tenus par la discrétion professionnelle, eussent-ils connu le policier, que le secret par eux n'eût jamais été révélé. Mais il fallait se méfier quand même des infirmiers et de ceux qui sont dans le service des salles et dont on ne pouvait répondre de l'absolue discrétion. Martin Dumas arriva donc au chevet du blessé mystérieux, enveloppé lui-même de mystère, et dans un déguisement qui le rendait méconnaissable. Prosper était là, naturellement, faisant figure de médecin, venu, comme il arrive souvent, pour assister à la visite d'un maître, d'un chirurgien, et profiter d'un cours pour étudier. Martin Dumas, à son habitude, ne laissait sur sa figure rien paraître de l'émotion qui l'étreignait. Il se plaça tout près du blessé qu'on s'apprêtait à panser de nouveau, laissant agir ceux qui allaient le soigner, mais il se tint si proche du malade que sa voix, fût-elle aussi faible qu'un souffle, il l'aurait entendu. C'était en effet pour lui un moment dramatique et solennel. Des lèvres de cet homme, peut-être, allait découler la solution d'un problème pour la découverte duquel lui, Martin Dumas, souffrait encore, avait deux fois risqué sa vie et vu la mort de si près. Des ordres avaient été donnés en conséquence, et la chambre dans laquelle gisait le blessé fut un instant vidée de tous les curieux, des assistants, médecins ou élèves. Il ne resta plus devant ce lit que le chef de service, deux aides qui allaient faire le pansement, que Prosper et Martin Dumas. Et la porte de la chambre fut soigneusement fermée. Elle ne devait s'ouvrir que quelques instants plus tard, pour permettre au commissaire de police, appelé en hâte par un coup de téléphone, de venir recueillir officiellement les mots que prononcerait le blessé et établir de façon légale un procès-verbal de cette sorte de déclaration sensationnelle. La nourriture un peu plus forte que cette fois on parvint à faire passer dans l'œsophage du blessé, au moyen de la sonde, les injections qu'on lui donna plus actives, à un degré plus élevé, produisirent l'effet que l'on était en droit d'espérer. La respiration devint plus fréquente, le pouls battit plus fortement sous les doigts du chirurgien en chef, qui suivait pas à pas les progrès de ce retour à la vie. On ne pouvait compter naturellement qu'aujourd'hui, en ce moment, cet homme allait, en revenant à l'existence, recouvrer la raison en même temps que les forces, et qu'il allait faire des déclarations, des révélations capitales, décisives. Mais il était possible d'espérer que s'il pouvait parler, s'il parvenait à prononcer de façon intelligible quelques paroles, Martin Humain en tirerait un bénéfice suffisant, trouverait dans ses bribes de phrases, dans ses simples mots, des indications intéressantes. Le roi des détectives se tenait donc là avec anxiété, les secondes s'écoulaient pour lui, longues et dramatiques. Il semblait que sa vie à lui était reliée à la vie de ce malheureux. Cependant, calme comme toujours, impassible, sans qu'aucun muscle de sa face ne révélât le bouillonnement de ses pensées, le frémissement de tout son être, son attente ardente, il regardait de ses yeux froids cet homme tout enveloppé de bandelettes avec qui il avait passé au milieu de cette catastrophe. Cet homme, dont il eût pu être le compagnon dans la mort, et aux côtés de qui il pouvait se trouver aujourd'hui sur un lit de douleur, dans un état aussi grandement lamentable. À ces réflexions, il ne s'arrêta pas. Il n'avait de pensée, de désir, que pour la parole, le mot, qui devait fatalement sortir de ses lèvres meurtries et qu'on attendait avec une si grande impatience. Pendant près d'une heure, on chercha à remonter ce malheureux, à activer ainsi le retour de ses forces, et l'on attendit qu'il manifestât de nouveau le besoin de parler. Enfin, encore une fois, après un long silence, il remua les mâchoires, que pour faciliter l'émission de la parole on n'avait pas maintenant attachées, ligaturées avec des bandelettes. Le blessé, comme tout à l'heure, fit entendre des sons rauques, inarticulés, qui péniblement sortaient du fond de sa gorge et venaient en quelque sorte expirer auprès des dents. Il semblait ne pas avoir la force de faire vibrer l'air faiblement amassé dans sa poitrine. Le jeu de ses poumons n'était pas assez fort pour que les mots formés dans la glotte puissent être poussés hors des lèvres meurtries et parvenir aux oreilles de ceux qui étaient autour du lit. Peu à peu, cependant, les forces revenaient. On aida encore la nature en faisant des insufflations d'oxygène dans les poumons. Cela parut lui faire grand bien, car il put cette fois proférer plus fort un semblant de mots et faire entendre non plus un vague glou-glou comme jusqu'ici, mais articuler des voyelles, esquisser des consonnes. On attendit encore quelques instants, puis on renouvela l'expérience de l'absorption forcée d'oxygène et le jeu des poumons, du diaphragme augmenta de puissance. Cette fois, le malheureux put parler. Certes, ce ne fut pas une phrase qu'il prononça, claire et distincte, mais deux, trois sons hachés, coupés, qui allaient en mourant, et qu'il fallait saisir pour ainsi dire au vol, afin de les noter, de les comprendre. Dalle. Ta. Tout. Il répéta plusieurs fois encore. Dalle. Dalle. Et avec une peine croissante. Ta. Ta. Tout. Puis il retomba dans son coma. Assez pour aujourd'hui, dit le chirurgien en chef. N'abusons pas des forces encore si petites de ce malheureux. Ne demandons pas à la nature plus qu'elle ne peut fournir. Demain, s'il vit, si le bien persiste, s'il recouvre encore un peu de force, on pourra essayer de le faire plus longuement parler. Pour aujourd'hui, ce serait imprudent. Alors il refit le pansement de la face, plaça près du malheureux un interne auprès de qui se tint Prosper, et chacun se retira. La chambre du malade fut laissée vide. Elle recouvra sa physionomie silencieuse et sinistre, où l'on sentait flotter parmi les émanations médicamenteuses comme un souffle de mort. Le malade sembla dormir et ne pas éprouver en réalité une grande fatigue de l'effort qu'il venait de produire. Martin Huma, à diverses reprises, vint prendre de ses nouvelles et se rendre compte de son état. Les médecins, ayant accompli leur devoir de ce côté-ci, allèrent auprès de nouveaux malades qui réclamaient leurs soins.